Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, des spermatozoïdes qui voyagent de Rennes à Lille. Oui, oui. Une interview avec Rebecca Handler, autrice du Patriarcat des objets et invitée des Mardis de l'égalité. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage sur l'exposition Silence de femmes avec la balade des livres. Et puis la recommandation du jour, une animation du Star mercredi, alors que les travaux se poursuivent sur la ligne B du métro. Bienvenue dans l'arène. Et on lance l'émission d'information locale avec l'info du jour. Une que j'ai choisie parmi d'autres dans la presse locale. Et alors aujourd'hui, imaginez tout un paquet de paillettes de spermatozoïdes dans un camion sur une route entre Rennes et Lille. C'est l'opération qui était organisée lundi 11 mars, un transfert entre deux CHU, des centres hospitaliers universitaires, orchestré par l'Agence nationale de la biomédecine. La loi de bioéthique de 2021, elle a ouvert l'accès à l'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes et entraîné une augmentation du nombre de demandes de PMA. Plus 30 000 demandes venant de couples de femmes sur une période de un an à l'échelle nationale. La loi entraîne aussi l'obligation de renouveler massivement les stocks de paillettes issus de dons qui étaient anonymes jusqu'à présent, car depuis septembre 2022, tous les nouveaux dons de gamètes comprennent l'enregistrement des donneurs. Concrètement, les anciens dons ils ne seront plus utilisables après le 31 mars 2025. L'Agence de la biomédecine est donc en train de mutualiser les stocks entre différents centres de dons. Et le premier transfert, c'était lundi 11 mars, entre le CHU de Rennes et celui de Lille, qui est lui sous-doté en gamètes. Plus de 1000 paillettes ont ainsi été acheminées sur un ensemble de 3000 paillettes qui iront vers 7 centres bénéficiaires en tout. De nouvelles actions de recrutement de donneurs sont par ailleurs prévues au cours de l'année. On rappelle que le don de gamètes, il est ouvert à tous les hommes entre 18 et 44 ans et pour les femmes, c'est de 18 à 37 ans. Plus d'infos sur le site dondegamètes.fr. Allez, après cette info du jour, on passe à une interview. Rebecca Handler, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste, autrice, podcasteuse, vous êtes allemande, on va l'entendre à votre accent, et vous êtes surtout l'invitée du prochain Mardi de l'égalité. Les Mardis de l'égalité, c'est un cycle de conférences qui est proposé par le service culturel de l'université Rennes 2. Et là, pour ce Mardi de l'égalité, il faut se dépêcher et courir au tambour avec une conférence qui débute à 18h ce mardi 12 mars. Le patriarcat des objets, c'est le livre qui sera au cœur de cette conférence, un essai qui est sorti en 2022 aux éditions d'Alva et qui pose la question suivante: pourquoi le monde ne convient pas aux femmes ? Quelle a été votre entrée dans le sujet ? Est-ce que c'est d'abord peut-être même des observations personnelles qui vous ont amené vers ces questions ?
Pas du tout, non. En fait, j'aimerais bien répondre oui. En fait, ça m'a travaillé toute ma vie. Je me suis rendu compte que effectivement, ça m'avait travaillé toute ma vie, mais c'était pas du tout à la base de l'idée du livre. Je devais faire un reportage sur la Potty Parity de 5 minutes pour une radio. Et Potty Parity, c'est un mouvement britannique qui essaie justement de faire en sorte que les toilettes publiques sont designées d'une façon qui soit équilibré pour personnes de tout genre. Et donc, ça reporte pas rien que sur, par exemple, le même nombre de mètres carrés, parce que sur, disons, 8 mètres carrés, il y a beaucoup plus de pissoirs qui tiennent place que de WC des toilettes assises. Et après, on peut poser aussi la question, est-ce que les toilettes assises sont un design qui est apte pour les WC publics? Ma réponse serait non.
C'est pas très engageant, ça donne pas toujours envie.
Rarement, je dirais même, oui. Et donc, oui, il y a plein de questions comme ça qui se sont posées là-dessus. Et je me suis très vite rendu compte que 5 minutes, ça me suffisait pas, parce que j'ai trouvé une experte, une professeure de design industriel qui était spécificiée là-dessus et qui travaillait depuis 20 ans, Bettina Möllring. Et tout ce qu'elle m'a raconté, je me suis rendu compte qu'en fait, la situation des WC publics catholique, c'était lié à l'histoire du patriarcat, l'histoire de la canalisation des villes, tout ça. Et je me suis dit, bah, je vais faire une heure de radio publique en Allemagne sur l'histoire des WC. Et personne n'a voulu ça. Et tous les magazines pour lesquels j'écris, tout le monde a refusé parce qu'on disait, ouais, c'est que le pipi, c'est pas assez important, ça n'a aucune importance sociale, politique. Et moi, en fait, je me rendais compte que c'était l'inverse, quoi, que c'était un sujet justement qui touche à toute personne et qui est important. Et donc, ouais, en fait, ça m'a mis furieuse. Et le seul moyen de canaliser toutes mes recherches, en fait, c'était un livre. Et je me suis très vite rendu compte que, oui, les toilettes, c'est un sujet, mais en fait, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus. Et n'importe dans quel espace j'ai regardé, soit le travail, la médecine, les vêtements, tout, il y a du design patriarcal partout, parce que toutes les choses, en fait, même les choses, les idées pensées aussi, sont pensées par, en majorité, un homme cisgenre, blanc, valide, nanana, donc ça s'achève.
Et... un homme qui a cet homme modèle qui a 40 ans, qui mesure 1m85, qui fait 70 kilos, et cet homme-là est la mesure de toute chose. C'est ce qu'on lit en quatrième de couverture donc de cet ouvrage, Le patriarcat des objets. Et malheureusement, cela entraîne des désagréments pour au moins la moitié de l'humanité. Depuis quand est-ce qu'une majorité d'objets sont conçus par et pour des hommes? Est-ce que ça a à voir avec l'industrialisation de la production d'objets? Est-ce que c'est plus ancien, plus ancré que ça?
C'est plus ancien, mais c'est vrai que l'industrialisation a...
amplifié.
Oui, amplifié, a speedé les choses. C'est vrai qu'avec tous les produits, tout d'un coup, qui sont venus sur le marché, oui, c'était encore plus ancré le design patriarcal. Mais quand on regarde, par exemple, l'histoire des vêtements... même pré-industrialisation, on se rend compte, l'histoire, je sais qu'en France, il y a eu aussi des grands débats, comme d'ailleurs dans tous les pays, sur l'histoire des poches et pourquoi les vêtements pour les personnes féminines, ça manque de vraies poches, tout ça. Et là, quand on regarde, on se rend compte en fait que l'histoire du patriarcat est plus ancienne et ancrée aussi dans justement des choses comme des poches ou alors des modes de véhiculer.
Comment on dit ? Des moyens de transport ?
Voilà !
Des moyens de transport.
Je me disais, c'est presque, mais c'est pas tout à fait ça, oui.
Vous appuyez pour développer cette réflexion sur des études menées à l'international. Alors, c'est souvent une affaire de taille et de détail, lit-on dans un article de Libération qui a été consacré à votre ouvrage. On l'a dit, le modèle de référence pour concevoir des objets, c'est cet homme cisgenre. On va commencer par le sujet des vêtements, puisque vous venez de l'évoquer. Des poches minuscules sur les pantalons féminins aux uniformes qui là vont plutôt avoir tendance à flotter. Globalement, la conséquence, c'est que les femmes s'habituent à l'inconfort dans leur tenue.
Oui, à l'inconfort, et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt derrière tout ça. C'est pas une coïncidence en fait. C'est que au début, pré-industrialisation, donc on parle du 18e siècle, en fait, il y avait peu d'espace privé, donc les peu de choses qu'une personne avait, elle les portait sur elle. Et donc on avait comme des sacoches que nos ancêtres portaient en dessous de leurs vêtements, qui les protégeaient justement de vol, tout ça. Et ça, avec un changement de mode pour les femmes, en fait, tout d'un coup, les vêtements étaient... on a enlevé les crénolières, tout ça, c'était du passé. Ce qui est bien aussi, parce que les crénolières, ça prenait feu, ça causait des accidents mortels pour des femmes. Donc, mais à la mode, tout d'un coup, c'est venu une statuette qui était très proche de la figure. Et justement, ça a enlevé tout moyen pour porter des choses sur soi. Et quand on pense à ce que les personnes... prenait avec elle, en fait, c'était soit un couteau, de l'argent, des choses qui peuvent nous donner la possibilité d'aventure, je dirais. Mmh. On n'est pas obligé de rentrer à la maison parce qu'on a de l'argent sur soi. Et ça, c'est vraiment un choix qu'on a essayé de remettre les femmes dans la domesticité, de dire vous n'avez aucune place dans la vie publique, et c'est ça qui est lié aux poches. Et donc, quand on se rend compte que c'est pas une question de... Oui, il faut dire aux designers, aux designeuses, si vous avez besoin de plus de poches, il n'y a qu'à mettre plus de poches. Mais quand on se rappelle, en fait, qu'il y a une histoire qui traverse plusieurs centaines d'années pour nous amener là, ça explique un petit peu l'idée qu'il y a derrière.
Sur le sujet des uniformes, donc des uniformes plutôt liés à des autorités, aux forces de l'ordre, mais aussi dans les tenues sportives, les femmes se retrouvent avec des vêtements qui ne sont pas, qui les empêchent en fait.
Oui. Alors, y a une histoire qui est déjà vieille, mais ça n'a pas changé jusqu'à présent. C'est que, par exemple, les vestes de protection qui font part des uniformes de policiers, bah, elles sont designées pour une personne qui n'a pas de sein. Mais il y a beaucoup maintenant de forces de l'ordre, des personnes avec des seins. Et en fait, l'inconvénient, c'est non seulement elles ne sont pas confortables à porter, mais il y a aussi un risque de sécurité. Et même chose pour, par exemple, les chaussures de football. Moi, je ne savais pas, parce que je ne joue pas de foot, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas vraiment des chaussures de foot pour femmes. Bien sûr, ça existe. On peut aller dans un magasin et trouver de Nike ou Reebok, tout ça, des chaussures pour femmes. Mais après, de se rendre compte qu'il n'y a aucune science derrière, en fait, que c'est des chaussures qui ont été développées pour un talon cisgenre masculin. Et que, oui, c'est vrai, les corps, il y a des différences. Il y a des différences au niveau de blessures, par exemple. Le jeu se joue différemment. Et donc, il faudrait des chaussures qui sont développées spécialement pour ça. Et ça se fait maintenant. Ça, c'est aussi un gros atout, en fait, de l'Internet, avec tous ces désavantages que ça.
Mais il y a des campagnes de financement participatif.
Voilà, ça a diversifié les moyens de financer des nouveaux designs. Donc, il y a plus de designs populaires qui ont aussi accès à leurs clients à travers Internet.
Pour des projets à plus petite échelle, en fait.
Exactement. Et on voit ça non seulement pour les produits féminins, mais on voit ça aussi beaucoup pour les produits qui sont designés pour des personnes avec handicap, en fait. Ça ne se faisait pas du tout. Et ça, maintenant, il y a des trucs pour éplucher. Il y a plein de choses. Ça s'est vachement diversifié. Et c'est grâce à l'Internet, en fait.
Il faut dire, là, on le comprend, que évidemment, il est question de féminisme, mais que vous élargissez la réflexion à des enjeux aussi d'homophobie, de transphobie, de racisme ou de validisme. On va passer au mobilier qui nous entoure dans notre quotidien. Et parmi les objets qui répondent à des besoins primaires, il y a surtout les toilettes. On résume ainsi, il n'y a pas assez de WC publics en France, mais comme ailleurs en Europe. Et les femmes ne peuvent pas, ou en tout cas difficilement, uriner contre un arbre. On se retrouve à être entre deux voitures, expérience commune partagée par plein de filles et de femmes. Là aussi, l'espace public n'est pas pensé pour les femmes.
Oui, mais ça, c'est aussi une question. Je m'étais jamais rendu compte, mais en fait, j'ai lu des interviews avec des sex workers des années 80 qui travaillent dans les rues et qui, elles ont appris à pisser debout parce qu'elles devaient le faire. Donc, en fait, la façon dont on pisse, c'est aussi une pratique culturelle qui s'apprend. J'ai essayé à apprendre ça à ma fille aussi, mais elle a appris. Mais après un certain âge, c'est vrai qu'il faut dire que les vêtements ne sont pas faits pour ça. Donc, il faut changer aussi la façon de penser les choses.
Et ça amène quand même, on peut le dire, une vraie question de santé publique, en fait, de devoir tout le temps se retenir. C'est là qu'il y a des enjeux importants qui se cachent derrière les objets.
Ah oui, tout à fait. Et même la question de pipi, là, en ce moment, on s'en rend compte. J'étais toute l'année dernière en Turquie, et donc il y a eu le tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Et c'est là, à travers plein d'organisations féministes, en fait, que j'ai recueilli plein de récits de femmes qui me disaient, avant, toute cette question, ça ne les travaillait pas vraiment, parce qu'il y a des mosques, il y a beaucoup plus de WC publics en Turquie qu'il n'y en a pas en France ou en Allemagne.
Dans les mosquées.
Voilà. Mais après le tremblement de terre, tout ça, c'était plus, ça comptait plus, ça n'existait plus. Et c'est là qu'on se rend compte que les personnes qui ont leurs règles, les menstruations, les personnes qui sont enceintes, les enfants, les vieilles personnes, tout ça, c'est des sujets féministes au sein. Et c'est au moment où, là, en ce moment, en Gaza aussi, on voit beaucoup de récits de personnes qui ont leurs règles, qui sont enceintes et qui n'ont pas accès aux toilettes publiques parce qu'il n'y en a pas, ou parce que, bien sûr, un homme cisgenre peut faire pipi partout, et il peut même, comment on dit, faire caca pour en adulte.
Déféquer.
Voilà. Il peut déféquer quelque part où justement il n'y a pas le risque de se faire aussi insulter, parce que il y a plein d'études internationales qui ont démontré que les personnes qui n'avaient pas accès aux toilettes, en fait, il y a un risque pour les femmes ou les personnes lues féminines de se faire agresser sexuellement, qui est vachement plus élevé que si une personne a un accès à un WC, à une toilette. Donc c'est en fait c'est une question de droit d'homme,
et
de femme.
Et un sujet majeur, on le comprend. Toujours dans une ville qui est pensée pour les hommes, on dit un mot au chapitre mobilité. Donc on va parler voiture. Jusqu'en 2010, les mannequins de crash test étaient conçus sur un modèle masculin. Et le résultat, alors pas que de l'histoire des mannequins de crash test, mais du fait que les femmes ne soient pas prises en compte lors des études, eh bien elles, au volant, elles ont plus de risques d'être blessées que les hommes. C'est assez fou, et c'est encore le cas, ça.
Oui, c'est encore le cas. Vous disiez 2010, en fait, c'est toujours l'actualité. C'est que maintenant, il y a un mannequin crash test qui est plus petit que l'autre mannequin, mais c'est pas un modèle qui...
C'est un modèle réduit, mais voilà. Pas avec des spécificités anatomiques féminines.
Voilà, et c'est si souvent le cas. Souvent, les produits... soit la voiture, la chaussure de football, le VTT, les skis, en fait la liste est très très longue, des produits qui sortent pour femmes, en fait c'est juste un modèle réduit, aussi souvent d'une plus mauvaise qualité que le produit pour hommes. Et pour la sécurité des voitures, en fait c'est choquant, parce que jusqu'en 2010, il n'y avait même aucune enquête, aucune recherche qui... prenez le genre de la personne en compte pour les dates d'accident. Et ça fait que, oui, on véhicule tous dans des voitures qui sont construites pour la sécurité maximum pour un homme cisgenre de 40 ans. Parce que ça discrimine pas uniquement les femmes, c'est aussi les personnes âgées. C'est les personnes qui sont grosses, les personnes qui ont des maladies, les enfants. Donc, il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas prises en compte. Et la seule raison pour laquelle c'est comme ça, en fait, c'est le capitalisme. Et c'est là les, comment on dit, les...
qui se... des rouages.
Voilà, le rouage entre le capitalisme et le patriarcat se démontre parfaitement avec cet exemple, parce qu'on pourrait penser des voitures modulaires qui justement prennent la personne qui les conduit, la personne qui est dedans en compte. Mais ce n'est pas du tout le cas. Même pour une chose aussi, je dirais, banale que les ceintures de sécurité, eh ben, il n'y a toujours pas de ceinture de sécurité qui accommode, par exemple, pour les personnes qui sont grosses ou les personnes qui sont enceintes. Tout ça n'existe pas, mais ce n'est pas parce que ça ne pourrait pas exister, ça pourrait très bien exister, mais il n'y a aucune volonté au niveau des constructeurs d'automobiles de vraiment... prendre de l'argent en main, parce que toutes ces recherches, tout ça, ça coûte, c'est vrai, c'est des choses qui sont chères, mais il n'y a aucune volonté aussi.
On nous avance aussi des économies d'échelle, et que d'avoir un modèle standardisé, c'est plus rentable que d'avoir des objets qui vont être à destination d'un public plus restreint. Là, on parle quand même de la moitié de l'humanité.
Donc. Ah oui ? Oui, c'est ça, mais c'est parce que, à mon avis, c'est pas le capitalisme en lui-même, c'est pas les constructeurs d'automobiles qui vont changer ça. Là, il faut une volonté politique, parce que, par exemple, dans l'Union européenne, il y a des standards de tests de mannequins, un crash test, que chaque véhicule qui sort sur le marché doit avoir passé ces 5 tests, nanani nananer. Et donc là, en fait, l'Union européenne, qui a tellement de plaisir à réglementer les patates, les carottes, tout ça, elle pourrait prendre ça plus au sérieux et demander justement que toutes ces variables-là soient aussi reconnues, les diversifiements de...
La diversification.
Voilà, de l'humanité soit prise en compte pour la sécurité automobile.
Il y a en tout cas un mouvement de designers qui aujourd'hui imagine des objets pour d'autres publics que les hommes cisgenres. Je ne l'ai pas dit, mais on redit cisgenre, donc une personne assignée homme à la naissance et qui se reconnaît comme telle. Si on revient au sujet des toilettes, il y a des urinoirs féminins qui ont été créés. Vous l'avez évoqué en tout début d'échange. Ici en France, on a par exemple vu apparaître des urinoirs féminins, notamment en festival. Mm-hmm. Toujours un peu vu comme une curiosité, mm-hmm. mais ça se développe. Et alors quand même, le risque d'avoir un intérêt pour le public féminin dans la conception d'objets, c'est d'avoir des industriels qui font du pink washing,
ouais.
qui vont réduire le modèle, aller mettre quelques fleurs, un peu de rose, des paillettes.
Parce qu'on aime tous ça. C'est trop beau.
Ce n'est pas ce que les femmes recherchent, a priori.
Non.
On veut du pratique.
Oui, on veut des choses qui sont faites pour nous et qui ne mettent pas nos vies en danger. Voilà, c'est simple en fait.
Il y a quand même des enjeux plus grands qu'une question pratique, justement, qui se cache derrière la conception de ces objets, puisqu'inviter à un design plus inclusif, ça permettrait aux femmes, mais aussi à d'autres publics, d'accéder à de nouveaux espaces, d'assumer des tâches considérées comme masculines. On a parlé du football, mais ça peut aussi être de pouvoir monter dans un tracteur quand on est agricultrice, de porter des charges lourdes si elles sont divisées et pensées pour.
Ouais. Parce que ça, c'est aussi souvent ce que j'ai entendu à travers tous les interviews que je donnais. Il y avait toujours un mec qui disait « Oui, mais si vous voulez l'égalité, il faut aussi travailler la construction, tout ça. Les femmes, elles ne veulent pas se salir les mains. » Mais c'est vrai que dans l'agriculture, dans la construction, toutes les machines, même dans les usines, tout ça, les machines, elles sont confectionnées, elles sont faites pour un homme cisgenre. Donc même une chose aussi simple, par exemple, qu'une brique, en fait, la brique, elle a des mesures qui ont été
imaginées
pour
une main, une paume d'homme.
Une pomme, voilà, pas une pomme, une paume. d'homme. Donc même où les éboueurs aussi, c'est quelque chose. À chaque fois, l'argument, vous avez qu'à travailler si les éboueurs, tout ça. Mais il faut se rendre compte que le camion des éboueurs aussi, il est fait, la taille des poubelles, tout ça, tout ça. Il y a une pensée que ça a été fait pour des hommes. Donc, à mon avis, il faut aussi changer ça avant de dire « Bah oui, mais vous avez qu'à faire. » Parce que quand on regarde au niveau international, il y a à peine 6%, par exemple, de femmes dans le cockpit d'un avion. Et c'est pas parce que les femmes, c'est un métier qui est très bien payé, donc y a un status. C'est pas comme si les femmes ne voulaient pas voler des avions, mais c'est que le cockpit design a été fait pour un homme et que c'est vachement difficile, même juste au niveau du corps,
d'accéder à certaines parties sur le tableau de bord, etc.
Voilà. Et oui, c'est fâcheux, quoi.
Je pense que même sur le design pensé pour les hommes, il y a aussi un truc très viriliste. Je repense à l'agriculture ou au BTP, où les hommes eux-mêmes peuvent se faire mal à la tâche, avoir des douleurs sur du port de charges lourdes parce que c'est encouragé et bien vu, valorisé pour un homme, quoi.
Ah oui, tout à fait, parce qu'on se rend compte aussi, il y a par exemple des scies électriques qui ont été designées pour des femmes cisgenres, et on s'est rendu compte après, une fois qu'elles ont été sur le marché, ils se sont rendu compte aussi que les hommes avaient une plus grande facilité aussi de travailler avec ces choses-là. Et ça, c'est une chose qu'on s'en rend compte aussi à travers tous les espaces, en fait. Souvent, un standard féminin, en fait, ça apporte une augmentation de qualité de vie pour tout le monde. C'est aussi pour les espaces publics, par exemple les éclairages de parcs et tout ça. Quand on demande aux filles, aux jeunes filles, aux teenagers, comment il faudrait que le parc soit éclairé, comment il faudrait que le parc soit aménagé pour que tu te sentes bien, en sécurité, à l'aise, on s'est rendu compte que ça, c'est une mesure où ça devrait être un standard, parce que aussi les personnes âgées en profitent, les enfants en profitent, tout le monde en profite. Mmh. Donc, à mon avis, il faudrait vraiment prendre les jeunes filles de 14 à 17, 18 ans, leur demander ce qu'elles veulent, et ça voudrait augmenter la qualité de vie pour tout le monde. Mais ça, c'est aussi catégoriquement, justement, la démographie, que personne ne demande jamais son avis. Et
puisque ce ne sont pas encore des électeurs, notamment. Tous ces sujets, ils sont à découvrir dans le détail dans un livre, Le patriarcat des objets, pourquoi le monde ne convient pas aux femmes. C'est paru en 2022 et ce sera aussi le sujet donc, du mardi de l'égalité organisé ce mardi 12 mars en votre compagnie. Rebecca Handler, vous êtes journaliste, autrice, podcasteuse et donc l'invitée de cette conférence qui commence à 18h au Tambour à Rennes. Sur place, on retrouvera la librairie Comment dire pour pourquoi pas se procurer un exemplaire de votre livre. Et on dit au passage, vous avez aussi un podcast en allemand à découvrir sur Spotify, son titre Feminist Shelf Control, pour les auditeurs qui seraient germanophones. Merci beaucoup.
Ben, merci.
Je suis douce comme l'eau, et je suis tendre, 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 tendre pour mes amants. Je suis la fleur dans leur cerveau. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon. Mes deux amants sont doux, doux, doux. Je suis à eux de l'âme jusqu'à la peau. Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Je ne savais plus voir, je ne savais plus entendre, je ne savais plus. Voici que je regarde, que j'écoute et que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Le temps est bon, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. Dam, dam, dam.
Isabelle Pierre, Le temps est bon sur Canal B, c'était le choix musical de Rebecca Handler qu'on a entendu dans une interview juste avant ça, et elle a choisi un titre de 1971 interprété par Isabelle Pierre, une chanteuse québécoise, morceau qui a connu un revival assez récent en 2018 avec le remix de Bon Entendeur. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0 ou peut-être connecté en ligne sur notre site canalb.fr. Allez, on continue l'émission du jour avec un reportage. Et direction les cadets de Bretagne, à deux pas du quartier Maurepas, à la découverte de l'exposition « Silence de femmes ». Ce projet participatif d'écriture sur du linge, il est porté par l'association « La balade des livres » et à découvrir jusqu'au 14 mars. Petite interruption durant le week-end à cause du festival Rue des Livres. Puis, l'exposition reprend du 19 mars au 4 avril. Cette proposition, elle fait partie de la programmation de Rennes, Ville et Métropole autour de la journée du 8 mars pour les droits des femmes. Allez, reportage.
Alors, devenir mère a été pour moi une véritable séisme, une cassure, une vague qui m'a submergée et déracinée de toutes mes certitudes. Je ne trouve pas de mots assez forts pour décrire la puissance du souffle. J'ai été terrassée et vidée de moi-même.
Donc ça, c'est le mot de Babette, 32 ans, un enfant.
Maintenir, soutenir, ceinturer, censurer, comprimer, déprimer, serrer, cerner, corseter, consterner, aplatir, paraître, enfermer, renforcer, atténuer, atteler, accabler, armer, harnacher, carapaçonner, juguler, brider, sangler, corriger, punir.
sur une gaine.
Des années 40.
Dans cet espace-là, nous avons deux cabanes qui sont en fait deux ossatures en bois. Donc c'est comme si on avait deux petites maisons. Donc je suis Marilyn de Graines. Je crée un certain nombre de projets pour l'association La Balade des Livres. Et sur les parois de ces maisons-là, donc, sont installées des pièces de linge. Et puis on peut rentrer à l'intérieur des cabanes. Et là, on a aussi des écritures un peu plus intimes. Et les cabanes sont reliées par trois fils à linge.
Où sont aussi suspendus de nombreux vêtements et puis tissus.
La Balade des Livres est une association culturelle qui va avoir 30 ans cette année. Donc la Balade des Livres fonctionne comme toute association, avec une quinzaine de fidèles, très fidèles même, depuis le début de sa création, et puis d'autres personnes qui, selon les projets, donnent un coup de main, s'investissent. L'objet de l'association, c'est de promouvoir la lecture, l'écriture, l'expression, et tout ça aussi en lien avec le spectacle vivant, la création d'expositions, donc il y a un côté très artistique.
Un objectif de mettre en lumière le livre, donc, auprès de tous les publics, insiste Marilyn.
En fait, c'est la volonté que j'avais, si on replace dans les contextes, de sortir le livre des lieux où il était bien au chaud, à savoir à l'époque, parce que c'est vous remontez à 30 ans, l'école et la bibliothèque. On n'est plus à ça aujourd'hui du tout, mais c'est pour ça, d'où le nom La Balade, avec un seul L, qui signifie bien la promenade. Et en fait, voilà, c'est parti un peu de cette idée que j'avais de promener et faire sortir les livres. Donc, ce qui fait qu'on peut être très nomade et aller dans des endroits extrêmement divers et variés. Et surtout, la balade travaille pour des publics qui peuvent être éloignés aussi de la lecture et de la culture. Et la balade a la particularité aussi d'avoir des éditions avec trois collections.
Dont on peut en dire un mot ?
Mais tout à fait. Donc, on a la collection à égalité qui travaille beaucoup sur l'égalité homme-femme, une collection jeunesse et une collection mémoire. Voilà. Et en règle générale, pas tout le temps, mais l'édition peut faire suite à un projet qui a été mené par la Balade des Livres. Alors, les projets de la Balade, ça peut aller du simple atelier d'écriture de 3 heures à un projet qui peut durer 3 ans avec implication des habitants et tout un tas de partenaires. Et notre temps fort, je dirais, c'est actuellement, enfin là, pour l'année 2024, fin d'année, la deuxième édition du festival Exil au féminin. Oui. Festival littéraire et artistique participatif. Violence de ton silence.
Silence tu et tu te tais. Le point de départ à Silence de femme, c'est quoi ? Comment est-ce qu'il est né ce projet ?
Eh bien, voyez-vous, la balade a toujours été très sensible à laisser des espaces d'expression aux petites filles, aux jeunes filles et aux femmes. Donc il est arrivé de travailler sur des sujets extrêmement douloureux, comme les viols, par exemple. Donc ça, moi, j'y mets un point, pas d'honneur, mais c'est important d'avoir ces espaces-là. Et encore aujourd'hui. Et donc, de ce fait, l'idée, c'était de trouver un support qui soit original. Alors, vous allez me dire, le linge, c'est pas très original, mais si quand même, parce que vous allez voir, vous avez des pièces magnifiques dans l'expo. Et de se servir de ce support comme feuille d'expression, sachant qu'aucun tabou. Donc, tous les sujets sont abordés là dans l'exposition. Ça va de l'excision à la maternité, en passant par la relation aux hommes, au travail, à l'intimité, au sexe. Donc, voilà. Et pour la première fois, les femmes, certaines, pas toutes évidemment, mais certaines ont pu poser par écrit ce qu'elles n'avaient jamais dit, par exemple. Donc, déjà, ça, c'est super important.
Je lis que l'exposition, elle est revenue de nombreux lieux en France en s'enrichissant au fur et à mesure de témoignages avant d'arriver au Cadet de Bretagne. Quand est-ce que ça a commencé et puis par où est-ce que le projet est passé avant d'arriver ici ?
Alors, il a démarré à Rennes et la première fois qu'on l'a exposé, c'était Place de la Mairie. Donc ça remonte à peu près à 2004.
Vous voyez ? Donc ça aussi, c'était pas... Aujourd'hui, ça semble plus évident de proposer ce genre de projet. Mais à l'époque, c'était un peu innovant, on va dire. Donc, évidemment, sur une exposition comme celle-là, on trouve ça super ou honteux. Hein, ça peut être ça aussi, mais ça, c'est pas gênant. Donc, elle a démarré Place de la Mairie, puis après, elle est allée dans plusieurs autres endroits en France. Et là, voilà, on a décidé de la ressortir cette année. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle n'était pas sortie, donc c'est bien.
Vous savez combien de femmes ont participé pour le moment ?
Je sais pas, peut-être pas loin de 200 en tout, quoi. Ouais. Alors, toutes les pièces ne sont pas là. Hein. Ce que vous avez là, c'est une partie seulement.
Comment est-ce que ça fonctionne pour que les femmes viennent témoigner ? Donc on le dit, il y a eu des ateliers organisés la semaine dernière, le lundi 4 mars, et un qui est organisé lundi 11 mars, au moment où on se retrouve. Le linge est déjà là. Quelle pièce est-ce que vous avez retenue ? Ou est-ce qu'on peut aussi soit arriver avec son vêtement ?
Alors l'idée, c'est aussi de partager, donc d'où l'idée des ateliers et des rencontres. Mais tous les cas de figure sont possibles et c'est arrivé, oui, que des femmes arrivent avec une pièce de linge parce que, voilà, elles savaient que ce serait exposé, mais elles avaient envie de le faire. Soit ça a pu être écrit aussi avec un enfant, on a eu ce cas de figure-là aussi. Donc, chez nous, tout est possible. Mais l'idée, oui, c'est les ateliers sont mis en place aussi pour partager, échanger aussi sur les sujets avant de passer à l'écriture sur sa pièce de linge. Donc soit les... Vous voyez, là, ça, c'est une pièce de linge qui a été complètement créée. Mais on a aussi de la lingerie, on a bien sûr de la serpillière, du torchon, mais des vêtements de travail, des draps magnifiques, brodés, des vêtements d'enfants, des culottes, des gaines, ouais, des draps, des chaussettes,
soutiens-gorge,
des nuisettes,
napperons aussi.
Voilà, tout à fait, des porte-jartelles là.
Donc c'est essentiellement blanc ou beige.
Alors oui, ça c'était aussi un peu pour le côté esthétique et avoir une unité, quoi.
Alors excision en pays Yacouba, Côte d'Ivoire. L'excision, c'est l'ablation du clitoris. Elle diminue la sensibilité de la femme. Cela la rend frigide ou semi-frigide. C'est comme un moteur diesel. Le temps pour atteindre le plaisir est beaucoup plus long. Si je respecte la culture de chacun, je ne vois pas l'intérêt de cette pratique. Je suis Yacouba. Je n'ai pas suivi cette tradition. Et il est hors de question que ma fille soit excisée.
Donc ça, ce sont les mots de Jeannette, une maman et présidente d'une association qui s'appelle Métissage.
Oh, une dernière quand même. Hein. Est-ce que la femme est plus poétique que l'homme ?
C'est signé F.A.
Et tu as la réponse ?
Je ne sais pas.
Bonjour Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse qui a participé lundi.
Ouais.
Marie-Thérèse, je vous présente Lucie de Canal B.
Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Je suis Marie-Thérèse Kouassi. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et je suis arrivée en France depuis 2011. Mais j'ai poursuivi petit à petit mon intégration de façon escapée. J'habite à Rennes, je suis à Rennes. Et là, j'ai intégré ce programme parce qu'on avait eu plusieurs travaux à faire avec la balade des livres. Et là, avec ce programme, écrire ce que nous pensons de la situation que nous vivons aussi. Donc là, j'ai été inspirée parce que, ayant moi-même vécu des choses que j'ai envie d'exprimer aussi, hein. Donc, c'était une belle occasion pour moi de m'exprimer, de sortir un peu les choses de mon ventre.
Devant nous, on a donc une chemise qui est sur un fil à linge accroché, une chemise blanche. Il y a des écritures de différentes couleurs et puis sur les deux côtés de la chemise. Est-ce que je peux vous laisser lire votre texte ?
Si vous voulez bien. Alors, qui suis-je ? Une femme à aimer, à considérer telle qu'elle est, mérite-t-elle la même place que toi? Quel regard jettes-tu sur elle? Une proie? Un sac à vider? Ma réponse, je suis une femme qui a les mêmes droits, qui ressent les mêmes besoins, peut aspirer aux mêmes ambitions, qui a les mêmes capacités. Alors, je vais dire à un homme, ta force et ta transpiration et tes sales besognes animales ne m'ont pas détruite. J'ai pris ta force et lavé ta sueur. De tes sales besognes, je me suis embellie. Regarde ma beauté, regarde ma bonté, regarde ma joie.
Et il y a donc une dernière partie.
Mentir pour abuser d'elle. Mentir pour déchirer son être. Pour étancher ta soif. Mentir pour tout prendre d'elle. Mentir. Voici le menteur, séducteur, voleur de mes nuits, voleur de mes nuisettes.
Est-ce que c'était une nouvelle expérience pour vous d'écrire comme ça?
Oui, je n'en ai jamais fait, et ça jamais.
Et ça a produit quoi pour vous d'écrire ces mots-là? Il y a des mots qui sont assez forts, quoi.
Pour moi, c'est une belle manière de m'exprimer, hein, et de dire que j'existe et que j'ai pris le dessus sur celui qui a voulu me détruire. Et ça, pour moi, c'est une grande force que je vais toujours garder et je vais aussi conseiller autour de moi. Parce que ne pas se laisser faire, ne pas se laisser détruire par l'alcool, il y a plein de choses qui peuvent nous détruire. Rester à se ternir dans ce qu'on vit, pour moi, ce n'est pas acceptable. Alors, j'ai décidé de sortir de là, de me battre par tous les moyens. Je suis passée par beaucoup de moyens. Heureusement, les structures de l'État qui accompagnent aussi les femmes, à Rennes surtout, j'ai eu beaucoup d'accompagnement, dont fait partie la balade des livres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses d'activités. Et tout cela m'a amenée à sortir, à lutter, à comprendre que j'ai encore une vie devant. Et c'est celle-là que je veux.
Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses?
Ben, pour moi, ce sera tout ce que je peux dire, c'est de dire aux femmes, quelle qu'en soit la situation, de se réveiller. C'est dur, mais de se réveiller. Quelle qu'en soit la situation. Parce qu'une personne, un homme vous détruit, mais derrière vous, il y a de la famille. Il y a des personnes qui vous aiment. Et qui, chaque fois que ces personnes dorment, elles pensent à vous. Donc, vous aussi, vous avez intérêt à penser à ces personnes et à vous-même et prendre le dessus. Voilà. Merci.
Ce genre de projet permet d'avancer assez vite, en fait. Donc, ça peut produire des déclics qui permettent des prises de conscience qui font que ça peut aller assez vite. Et puis, il y a aussi quand même le phénomène de groupe. D'être en équipe, de se reconnaître dans ce que peuvent dire les unes les autres. Donc voilà, c'est une sorte d'alchimie comme ça entre plein de choses. Mais l'idée, voilà, ce sont des espaces d'expression pour aller plus haut, plus loin, plus fort, plus lumineux. À Ouessant, la mer et la mère se confondent souvent. Il y a la mère, celle qui donne naissance à l'enfant, celle qui lui donne la vie, celle qui l'aime. Et puis il y a la mère, celle qui conduit le marin dans sa vie, celle qui devient souvent l'amante de l'homme, celle qui lui prend sa vie. À Ouessant règne le matriarcat. Et si l'on n'est pas marin, l'on n'est rien. Les femmes gouvernent car les hommes sont en mer. Les femmes gouvernent car certains hommes deviennent fous et confondent la mer avec leur mère. La mer donne naissance au marin, mais la mer donne naissance à sa passion. La mer donne la vie au marin, que la mer reprend. La mère aime le marin et le marin aime la mère. Et quand un fils est parti trop tôt en mer, C'est à sa mère de chanter la Broëlla en son souvenir avant de jeter un linceul à la mère. La mère renferme en son ventre la vie d'un fils, d'une Ouessantine. Mère et mère, cela se prononce pareil et pourtant à Ouessant, elles sont ennemies.
Et c'est signé Lucie.
Voilà.
Demos Maniana par Eda Diaz sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Un extrait de Suave Brutal, c'est le titre de l'album sorti début février sur le label Air Phono. 11 titres qui constituent le premier disque d'Eda Diaz, chanteuse et contrebassiste franco-colombienne. Vous venez de l'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission qui a quitté les réseaux sociaux depuis le mois de septembre déjà, pour continuer à être informé du programme de l'émission. Chaque vendredi, une newsletter est envoyée aux abonnés, ça s'appelle le courrier de la reine. Pour la recevoir, rien de plus simple, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et avant de se quitter, quand même, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes, souvent d'événements à vivre près de chez vous en région rennaise, parfois aussi des idées de lecture, de podcasts ou encore de documentaires. Aujourd'hui, on annonce une action du STAR, le service de transport de l'agglomération rennaise, qui a annoncé, tiens, par ailleurs, dans la foulée ce mardi 12 mars, que les travaux se poursuivaient sur la ligne B du métro, toujours à l'arrêt, donc avec une remise en service prévue au cours du printemps. C'est assez flou pour le moment. Bref, le STAR organise mercredi 13 mars de 14 à 18h une action devant l'entrée principale du Centre Alma à Rennes. Le public pourra monter à bord d'un bus théâtre. Des scénettes seront jouées sur le thème des agressions dans les transports en commun. Un dispositif imaginé avec deux comédiens et comédiennes de la troupe Échappée Belle. L'idée, c'est de sensibiliser au protocole d'alerte à suivre, qu'on soit victime ou témoin d'une agression dans le bus ou dans le métro. Il en existe quatre des protocoles. Cette action, elle est organisée dans le prolongement de la campagne de prévention non sur toutes les lignes qui avait été lancée par Rennes Métropole fin 2022. Là, l'action qui va être organisée mercredi, elle est proposée en collaboration avec la ville de Rennes, le point d'information médiation multiservice, le PIMS, mais également la police nationale et municipale et l'association SOS Victimes 35. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.